Bien, bon après-midi à tous. Bonjour à Lucien Atoun aussi, à vous. Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez, mais si vous êtes très bien comme ça, vous restez comme ça. Ça donne de l'air. Bon, voilà. Alors, on est ici donc une nouvelle fois pour un dialogue. Un dialogue animé par les CMEA et en partenariat avec le festival. Et on reçoit donc aujourd'hui, ce soir, là, cet après-midi, Lucien Atoun pour parler donc de cette aventure. Et Micheline Atoun qui nous rejoint et qu'on remercie beaucoup. Voilà. Parce qu'elle est un peu fatiguée. Voilà. C'est une rencontre pour à peu près une heure de temps. Vincent me donnera éventuellement un coup de main pour l'animation. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va démarrer de vos impressions ou de vos questions ou de vos réflexions plutôt, puisqu'il ne s'agit pas d'un spectacle en particulier, mais sur cette formule, ces formules que vous avez mis en chantier, voilà, depuis un certain temps. Alors je vous propose, sans thématiser notre rencontre, de partir un peu de ce que vous avez vu. Donc ici à Avignon cette année, si vous avez vu un certain nombre de choses. Ensuite, que l'on parle un peu de l'histoire de cette aventure. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de l'amont de cette aventure, puisque Lucien Atoun et Micheline Atoun sont des témoins à travers l'histoire de ce festival et peuvent, en liaison avec ce qu'ils ont fait, nous parler aussi de cette période-là. Voilà, alors est-ce que quelqu'un... On va nous donner le micro ici. Alors, voilà. Alors, est-ce que... Il y en a qui ont vu un certain nombre de mises en espace ou d'autres éléments ici et qui veulent nous dire ce que ces formules leur posent comme question ou leur amènent comme réflexion, comme intérêt, etc. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Ça sera plus facile de partir. Enfin, ça sera plus facile. Non, ça sera pas plus facile, mais ça sera plus intéressant de partir de vous.
Moi, j'ai vu Tout doit disparaître, donc une des propositions là qui est à la Chapelle des Pénitents Blancs. Et c'est la première fois que je vois ce type de théâtre. Je le dis comme ça, mais par contre, pas la première fois que je l'entends. Je vais m'expliquer un peu là-dessus. Déjà, théâtre ouvert, je ne savais pas ce que c'était. Donc c'est une découverte, là, à ce moment-là, visuelle en tant que spectateur. Mais par contre, j'ai de grands souvenirs d'auditeurs de radio et d'écouter des pièces radiophoniques. Et ça m'a vraiment, vraiment fait penser à ça, beaucoup. Du coup, je me suis autorisé à fermer les yeux à plusieurs reprises pendant ce spectacle. Je pense que ça m'a aidé aussi à pouvoir faire ce travail d'imagination et de réflexion sur qu'est-ce qui se passe précisément, quelles sont les situations qui sont là, etc. Sans ça, il y a quand même des comédiens. Et par rapport à moi, en tout cas, ces comédiens viennent interférer peut-être sur la possibilité d'imagination que je peux avoir. Donc je préférais fermer les yeux, mais c'est vraiment un rapport très personnel à la proposition de « Tout doit disparaître ».
Est-ce qu'on a quelques autres réactions, puis après, vous réagirez là-dessus, si vous voulez. Alors, madame. Madame d'abord, et ensuite ici.
Moi, j'étais le 9 juillet au voir le Cancrelat.
Au Cancrelat, oui.
C'était extraordinaire comme expérience. Voilà, moi, je suis une grande amateur de théâtre, et moi, je vous félicite, parce que je connais votre histoire, votre parcours. Et donc, je suis allée voir la mise en espace de Jean-Pierre Vincent, que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup en tant que metteur en scène. Et donc, je voulais vous féliciter parce que ce sont des expériences uniques. Voilà.
Et pourquoi, madame, vous ne voulez pas nous développer un peu en quoi ?
Pardon, je prends la place
de l'animateur. Je suis très mal élevée, je préviens.
Non, mais je trouve que c'est une expérience de voir... Il y avait des jeunes comédiens qui interprétait ce Cancrelat, parce que c'est quand même une pièce assez étonnante. Et il faut beaucoup de courage, je trouve, pour monter une pièce comme ça. Mais moi, je voulais vous demander comment vous faites pour déceler une œuvre qui en vaut la peine.
On va prendre l'intervention de madame, et puis après, on va discuter.
Non, enfin moi, je t'interviendrai peut-être après, mais pour l'instant, ça m'intéresse d'entendre la réponse à la question qui a été posée là.
Tout de suite.
Je crois que Micheline est bien placée parce que, si vous voulez, on a, pour ses 40 ans, on a fait un petit clin d'œil. C'est-à-dire, on a dit à Jean-Pierre Vincent, c'est toi qui as inauguré la première mise en espace le 23 juillet 71. Il est impensable que 40 ans après, comme tu es en pleine forme, bon, il a un peu de ventre, mais ça fait partie de sa forme, que ça se passe sans toi. Donc, il a dit oui. Et après, il a lu, je sais pas, 28 textes avant de choisir, puisque, comme vous le savez, dans les mises en espace, c'est le metteur en scène qui choisit en définitive la pièce. Il ne peut pas dire on me l'a imposé, j'ai cachetonné. On sait que c'est son choix du moment. Donc plus on est libre, plus on est responsable. Et là, je passe la parole, puisqu'on fait deux équipes, Michel et moi. Et là, je vous ai dit, il a lu 28 pièces et un jour, il a eu une conversation avec Micheline qui va vous la raconter, parce qu'après, elle va dire que ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, donc je préfère que ce soit elle.
C'est-à-dire qu'il y a deux questions dans votre question, au moins. Comment nous faisons pour déceler des pièces ? Alors, en général, comme nous existons depuis 1971, nous commençons à être assez connus, il faut bien le dire. Et surtout, le travail que nous faisons avec et pour les auteurs. Et donc, beaucoup d'auteurs nous envoient leurs textes par la poste. À titre informatif, nous en recevons pas loin de 600 par an, ce qui est absolument énorme. Énorme, et nous les lisons et nous répondons brièvement parfois à chaque auteur. Donc c'est assez connu.
Ce qui veut dire qu'il y a une production, il y a une grosse production finalement.
Ce qui veut dire qu'il y a peut-être, dit-on, moins de spectateurs qui vont au théâtre, j'en doute quand je vois ce qui se passe à Avignon et le bonheur des gens. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui écrivent. Enfin, à vrai dire, depuis le début, enfin pas le tout début, mais c'est une constante. Nous continuons à recevoir à peu près autant de textes. C'est un gros boulot. Et nous rencontrons les auteurs dont il nous semble qu'ils peuvent aller plus loin, qu'on peut leur apporter quelque chose, discuter avec eux de leurs pièces. Très succinctement résumé. En ce qui concerne Cancrela, c'est un tout petit peu différent. C'est pour ça que j'ai préféré d'abord répondre généralement. Cancrela, c'est le fruit d'un échange que nous avons eu avec le Traverse Théâtre d'Edimbourg, qui est très connu aussi, parce qu'il ne fait que des auteurs contemporains. Et donc, nous avons, avec l'aide de la maison Antoine Vitesse et Laurent Mulhazen, son directeur, nous avons fait un échange il y a 2-3 ans. La mémoire des dates, c'est Lucien. Nous avons fait un échange, c'est-à-dire nous leur avons envoyé une dizaine de pièces françaises, d'expression française. Il n'y en a pas besoin d'avoir la carte d'identité française. Il suffit d'écrire en français, je précise. Et donc, ils ont choisi là-dedans deux pièces qu'ils ont fait traduire et qu'ils ont présentées en mise en espace dans notre formule, un peu adaptée, puisqu'ils en font aussi. Et vice-versa, ils nous ont envoyé une dizaine de pièces d'auteurs. Et c'est intéressant de savoir que presque tout était des textes de femmes, alors qu'en France, on a tellement de mal à trouver des écrivaines de théâtre. Il n'y en a pas tellement, mais là-bas, il y en a beaucoup. Et nous en avons retenu deux que nous avons fait traduire, que nous avons présenté à Théâtre Ouvert à Paris, un petit théâtre d'essai de création qui est à côté du Moulin Rouge. Et nous l'avons édité, cette pièce. Et après, l'autre versant de notre travail, c'est le travail avec les metteurs en scène. Enfin, je vais être un peu longue. C'est le travail avec les metteurs en scène que nous essayons de mettre en relation, parce que éditer, c'est bien. Que les metteurs en scène montent les pièces, c'est encore mieux. Et donc, Jean-Pierre, ayant vu, je sais pas, une trentaine de spectacles de Jean-Pierre Vincent, j'avais une petite idée, et Lucien aussi, bien sûr, de quelle pièce pouvait lui convenir. Et donc, moi, je ne lui en donnais qu'une. Mais la profession a su que Jean-Pierre faisait Avignon, et le lendemain, il en a reçu des kilos. Donc, il a tout lu, il a même fait des notules sur toutes les pièces, qu'il nous a passées, d'ailleurs, et il a choisi Cancrela, qui est une pièce très extraordinaire d'une jeune femme de 27 ans, en plus, qui est, en ce moment même, elle a une autre pièce qui est jouée au National Theatre à Londres. Donc, c'est quelqu'un qui va certainement, qui est promu à un bel avenir, je pense. Et c'est vrai que la pièce est très étonnante. Et qui mieux que Jean-Pierre pouvait la monter, puisque Jean-Pierre est également professeur dans différentes écoles de théâtre. Et il fallait une petite dizaine de jeunes comédiens, très jeunes en l'occurrence. Voilà. Et bien, si je peux monopoliser la parole encore un peu, je voudrais aussi dire à monsieur des débats, des dialogues avec le public, on en a fait énormément. J'imagine que s'il y a relativement peu de monde aujourd'hui, c'est qu'on en fait tous les jours au pénitent blanc et que le public qui vient aux mises en espace, il a chaque jour une rencontre avec l'auteur, le metteur en scène et l'équipe de théâtre ouvert. Donc ceci peut peut-être expliquer cela. Mais c'est la première fois que j'entends ce que vous venez de dire, la toute première fois. C'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant que Lucien Atoun, que vous avez là, est depuis très très longtemps un homme de radio tout à fait remarquable, qu'il avait une émission qui s'appelle Le Nouveau Répertoire Dramatique de France Culture, où il a programmé à peu près tout ce qui se fait comme théâtre contemporain. Je vais le laisser en parler. Ce qui n'enlève rien au fait que nous pensons que le public peut faire un effort d'imagination en général, pas pour vous et pas pour cette pièce, je respecte tout à fait, mais peut-être que quand même il y a une relation.
Non, mais je pense qu'il y a peut-être une contradiction dans ce que vous avez dit, à savoir que vous avez dit que vous avez fermé en gros les yeux, mais ouvert les oreilles, c'est bien ça, et fermé la bouche bien sûr, et donc vous avez rêvé, en entendant le texte, de ce que ça peut devenir. Bon. D'une certaine manière, vous avez joué le jeu, parce qu'une mise en espace, ce n'est pas un spectacle en devenir. Ce n'est pas la première étape d'un spectacle. C'est un moment d'écoute, d'audition, d'une approche, d'un texte nouveau, mais aussi avec ces mouvements dans l'espace pour imaginer ce que ça peut être. Donc, vous l'avez imaginé. Bon, il se trouve qu'il y a des gens qui, par exemple, mangent du roast beef, ils n'ont pas besoin de couteau et de fourchette, ils arrivent à manger. C'est apparemment ce qui vous est arrivé. Mais en réalité, c'est parce qu'avant, on vous a coupé la viande en fines tranches. Donc, vous n'avez pas de problème. Et les gens qui vous ont coupé la viande en fines tranches et qui vous ont épargné de prendre un couteau et une fourchette, ce sont les comédiens. Donc c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que ce sont les comédiens qui sont les porteurs de la parole de l'auteur. Alors c'est vrai que parfois on peut craindre que des comédiens en fassent trop et donc vous empêchent de rêver, d'imaginer. Ben, moi je ne voudrais pas porter de jugement, mais je crois que dans ce que vous avez vu, Tout doit disparaître, il y a une vraie équipe de comédiens magnifiques qui se complétaient et qui n'en faisaient pas trop. Qui faisait juste qu'il fallait, par exemple, je suis pas prêt d'oublier que lorsque Catherine Yégel, qu'on surnomme la grande Catherine, bon, entre sur le plateau, cherche sa chaise et nous regarde, on a tout de suite compris qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est pas beaucoup ça. Et ça, si vous aviez les yeux fermés, ben, il vous aurait manqué quelque chose.
Ah. Alors, madame ici.
Alors moi, depuis l'autre fois, je réfléchis.
Ah.
Et je suis retournée. Donc c'était dénommé Gospodin que j'ai vu.
Oui, qui est un nouvel auteur allemand qui lui aussi doit avoir 27 ans et qu'on ne connaissait pas et qu'on vient de découvrir en France et qui, je pense, va faire son chemin également. Et ça, c'est grâce là aussi au metteur en scène, en l'occurrence Benoît Lambert, qui a dit finalement, c'est ça que je veux défendre aujourd'hui.
Alors vous aviez raison parce que quand on avait discuté déjà au pénitent blanc... venir ici, bon, on hésite. Mais quand même, j'ai avancé et j'ai vu Jean Lachance, qui est une histoire à peu près semblable de Brecht, oui. Et mise en scène. Et je commence à me demander si vous n'avez pas brouillé les pistes un peu avec vos mises en espace. Parce que finalement, maintenant, dans les mises en scène, on voit des trucs qui sont repris de la mise en espace. Oui. Les acteurs ne sortent pas du plateau, se tournent ou simplement restent immobiles. Plein de choses comme ça.
Oui.
Et quand on appelle lecture...
Oui.
Hier, Schiaretti, c'est la première fois, et ça, c'était bien pour mai 68, là, pour les théâtres, dans la tempête, c'est que, d'un coup, les acteurs bougeaient, sur le alors que c'était pour la radio, hein, mais pour nous, quoi.
Oui.
Vous avez brouillé les pistes.
Non, moi, ça va être ma faute.
C'est bien, non, mais c'est très bien, quoi, c'est très, très bien, au contraire.
Non, je vais vous dire simplement, c'était mercredi, aujourd'hui, on est vendredi, donc mercredi matin... Il y a eu un débat, comme ici, à la chapelle des pénitents blancs, qui était presque pleine, j'étais étonné. Et c'était une idée, puisque vous parlez de Schiaretti. Schiaretti a donné à entendre un texte de Denis Guénoun, hier, France Culture. Et Denis Guénoun est un auteur, metteur en scène, et aussi un prof et un observateur. Et donc, il a dit, il était à une réunion de la maison Jean Vidard, et il a dit, non, tout le monde sait ce que Théâtre Ouvert a pu faire pour faire connaître des auteurs ou des textes nouveaux, mais en réalité, la mise en espace a fait modifier le rapport à la mise en scène. Voilà. Et donc, il a, on lui a dit, il a fait un débat avec plein de gens, et par exemple, Jean-Pierre Vincent, il y a 3 ans, je crois, a fait ici le silence des communistes, si certains d'entre vous l'ont vu, et il a dit, je fais Théâtre Ouvert. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est une idée qui a pris corps en 71, ici à Avignon, à l'invitation de Villard, qui n'a pas vu naître puisqu'il est mort en mai 71, mais c'est quelque chose qui, semble-t-il, a un peu changé les choses. En tous les cas, d'un point de vue anecdotique, ce qui est amusant, c'est j'ai un souvenir, c'est-à-dire qu'on a annoncé la mise en espace, et quelques semaines après, il y avait des affiches, vous savez, à Paris, on appelle ça les colonnes Maurice, hein, si vous êtes à Paris, voilà, et il y avait des affiches de l'Opéra de Paris. Et il y avait écrit « Chorégraphie de Caroline Carlson ». Et puis, quelques jours après, les affiches ont été changées, et c'était les mêmes, sauf qu'il n'y avait plus écrit « Chorégraphie de Caroline Carlson », il y avait écrit « Mise en espace de Caroline Carlson ». Voilà. Et donc, ça veut dire que ça correspondait à un besoin du spectacle vivant, si vous voulez. L'idée, c'était qu'à l'époque, il faut savoir quand même qu'on disait qu'il n'y avait pas d'auteur en France, par exemple, et qu'il fallait les chercher, à la rigueur, si on voulait vraiment un auteur, aller en Allemagne ou en Angleterre, et encore. Bon. Mais ce compte, c'est certains spectacles étaient montés, les plateaux étaient encombrés de gros décors, de grosses répétitions, etc., qui fait que on n'entendait pas toujours la pièce, et à telle enseigne que lorsqu'il y a une pièce nouvelle, qui donc n'a pas de repère, était donnée pour la première fois dans ce fatras, si vous voulez, de décors, même s'ils étaient très beaux, les décors, on n'entendait plus bien la pièce. Et si le spectacle était raté, ça arrive. À coup sûr, c'est l'auteur qui n'a pas de talent, puisqu'on n'a pas entendu, c'est clair. Mais si le spectacle était réussi, il a peut-être du talent. Voilà. Donc la mise en espace a permis à la fois de dire aux gens qu'il y a en France des professionnels qui s'intéressent aux auteurs contemporains, mais qui n'ont pas eu la possibilité de les donner à entendre. Donc ils ont la possibilité. Mais ça n'est valable que si on dit qu'en face, il y a des spectateurs qui s'intéressent au théâtre contemporain et qui veulent eux aussi entendre ça. Et donc, plutôt que de figer les choses et de faire un colloque de plus, parce que je ne vous raconte pas les colloques qu'il y avait sur la création contemporaine et puis sur les... Micheline a évoqué timidement l'identité. Vous savez, on a dit à un moment, c'est terrible en France, hein. Il ne reste plus que Adamoff, Beckett, Ionesco, Arabal et Audiberti. Et quelqu'un ironisait sur les auteurs français. Je rappelle qu'Audiberti était quand même niçois. Mais enfin, bon, un nom pareil, c'est bizarre, hein. L'autre était en Irlande, enfin, etc., l'autre en Roumanie, vous voyez, l'autre au Caucase.
Qu'est-ce qu'il y a contre les Niçois, exactement ?
Non, moi, j'ai rien, mais c'était pour dire simplement que c'était limite la critique. Et donc, à cette époque-là, on a dit, il y a des auteurs qui auront envie qu'on les entende. Et c'est pour ça qu'on a fait cette mise en espace, rêvant ensemble, si vous voulez. Donc, il y a un décor qui est limite, hein, il y a des costumes qui sont des signes. Et puis ils ont la brochure ou ils n'ont pas la brochure, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous puissiez inventer de spectacles futurs si spectacle est possible. Et par exemple, pour revenir à votre remarque, messieurs, on a toujours dit qu'une vraie... Enfin, c'est une définition un peu pragmatique et empirique. Une mise en espace réussie, c'est celle qui fait 50% du chemin et qui permet aux spectateurs de faire les 50 autres pour inventer le spectacle futur. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Enfin, j'ai essayé.
Oui, si tu veux.
Ben, c'est de ma place aussi dans cet espace et puis dans d'autres, la mise en espace a réactivé quelque chose chez moi qui serait de l'ordre d'un outil, d'un moyen simple, pas simpliste, mais extrêmement pédagogique par rapport à l'accès à des nouveaux auteurs, la possibilité de faire théâtre assez vite, d'accéder à quelque chose comme ça. Enfin, il y a quelque chose de l'outil pédagogique qui, de ma place de militant dans l'éducation populaire, me plaît beaucoup. Est-ce qu'elle est présente dans votre réflexion, cette réflexion que je me fais? Est-ce que vous le... Voilà.
Écoutez, oui. D'abord, juste puisqu'on est une rencontre des CEMEA, en tant que témoin, je veux dire que je dois vous dire que Villard attachait une énorme importance aux CEMEA et son successeur Paul Puyot également, pour eux, c'était la plaque tournante de ce qui devait être le théâtre d'aujourd'hui ou de demain. Et d'ailleurs, je me souviens d'avoir vu à la chapelle des Pénitents Blancs un certain nombre de jeunes qui arrivaient des CEMEA, dont certains arrivaient en culotte courte et en short, et qui sont devenus des auteurs joués par la suite, mais qui ont découvert une certaine théâtralité à la chapelle des Pénitents Blancs. Ne me demandez pas les noms, je ne vous les donnerai pas, parce que les autres que je nommerai pas ne seraient pas contents. Et donc, simplement, ce côté pédagogique, oui, c'est à telle enseigne, parce que une des choses qu'on a imposées, si vous voulez, c'est de dire, un, tout à l'heure, on parlait de Vincent. Quand Vincent a fait sa première mise en espace, en fait, lui et Jourdeuil, ils travaillaient ensemble, Jean Jourdeuil, et ils s'amusaient à triturer les textes des classiques. Ils prenaient la biche, ils coupaient, ils rajoutaient des choses que la biche a écrites, mais ailleurs. Ils prenaient Goldoni ou tout ce que vous voulez, et en force, on disait, écoutez, vous triturez, vous trabrez. Essayez de vous frotter à un auteur vivant. Il va falloir que vous lui expliquiez pourquoi vous coupez dans son texte, pourquoi vous ajoutez. Et un jour, il a dit, bon, on va essayer. Voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a, chez nous, une des règles, c'est que l'auteur est présent au travail. L'auteur apprend aussi son métier sur le terrain, mais avec qui? Avec les praticiens, c'est-à-dire avec les comédiens, sous la direction d'un maître d'œuvre, le metteur en scène. Et donc, il est toujours présent et il répond à des questions que se posent. Moi, j'ai vu des grandes comédiennes, par exemple, dire à un auteur ce que nous n'aurions pas pu dire. Il dit, moi, ce texte-là, je ne peux pas le dire. Et il ne peut pas mettre en doute la qualité de la comédienne. Donc, il y a un problème. Moi, j'ai vu un jour une discussion, on parlait de pédagogie, une discussion avec un auteur à qui j'ai expliqué, pédagogiquement, mais pas très heureusement, apparemment, que son texte était un peu bavard. Et on a pris deux pages, j'ai dit, c'est trop long. Il me dit, je vois pas. Et il était avec un ami commun qui était un éclairagiste, qui fait donc les lumières. Il regarde et il lui dit, tu sais, moi, avec un seul effet de lumière, j'en dirai autant que tes deux pages. Ça, c'est de la pédagogie. Donc l'auteur a compris qu'il fallait qu'il revoie sa copie.
Et moi, si je peux ajouter quelque chose, je suis un petit peu plus réservée que Lucien sur cette notion de pédagogie. Pédagogie envers les auteurs, certainement. Dans une certaine mesure même, pédagogie pour les metteurs en scène, pour qu'ils n'aient pas peur de rencontrer des auteurs vivants en chair et en os. Mais j'ai rien contre la pédagogie. Mais je dirais plutôt sensibilisation. Une sensibilisation à l'écriture contemporaine. Et c'est en venant à Paris, ici c'est plus difficile puisque c'est ponctuel. Encore pendant 7-8 ans, nous avons été au Pénitent Blanc et on voyait revenir les mêmes spectateurs. Aujourd'hui, notre intervention est plus ponctuelle. Mais je dirais que c'est une habitude de regarder le théâtre autrement, de le regarder en train de se faire et aussi de s'amuser. Pour revenir à cette fameuse soirée du 23 juillet 1971, on ne savait pas du tout vers quoi on allait, hein, pas du tout. On avait inventé quelque chose. Jean-Pierre et une équipe extraordinaire de comédiens qui sont devenus des grands depuis, mais qui étaient tout jeunes, y ont cru. On a eu une chapelle désaffectée qu'il a fallu aménager, et puis on ne savait pas où on allait. Et on est allé vers une vaste partie de rigolade, c'est-à-dire que la salle était pliée en deux de rire. Et à partir de là, tout est parti. Je veux dire aussi que c'est pas un travail, c'est pas laborieux. On peut aussi y prendre un plaisir fou. Et in fine, je crois que le plaisir du spectateur, c'est quand même aussi très, très, très important. Je pourrais même donner un autre exemple, toujours Jean-Pierre Vincent. Pardon de revenir à lui, mais cet homme a fait beaucoup de choses. Il avait fait à Avignon, en je ne sais plus quelle année,
73,
une pièce de Jean-Claude Grimbert,
qui à l'époque n'était pas si connu que ça, et Ramel lui aussi pour se faire connaître, mais qui est l'auteur de l'atelier. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent Jean-Claude Rimbert, qui est mondialement connu, on peut dire. Et donc, il avait écrit une pièce qui s'appelait « En revenant de l'expo », que Jean-Pierre a présenté 4 soirs, puisque c'était le soir à l'époque, au Pénitent Blanc. C'était tordant. On avait Philippe Clévenot qui jouait sur un piano punaisé, c'est-à-dire abîmé définitivement. On avait Jean-Pierre en culotte courte qui chantait... Qu'est-ce qu'il chantait déjà?
C'était le Cafcon. Et puis Hélène Vincent qui chantait l'aviateur.
Déjanté, un gamin de 7 ans. C'était à hurler de rire et ça a été un triomphe. Et puis Jean-Pierre l'a monté après. Car enfin, il faut aussi dire que beaucoup de pièces se montent après. On n'en reste pas à la mise en espace lorsque c'est un succès. Enfin, après, ça dépend des conditions économiques, de la conjoncture, de la crise, de ceci, de cela. Mais enfin, la finalité, c'est quand même aussi le spectacle. Et donc, Jean-Pierre l'a monté au Théâtre National de l'Odéon, avec un décor somptueux, extrêmement coûteux, de Yanis Kokos, où on reconstituait la grande verrière du Grand Palais, par exemple. Des comédiens magnifiques, enfin tout était très bien, sauf qu'on rigolait plus du tout. C'était devenu une fresque historique sur la période. C'était très intéressant, mais quelque chose du plaisir, il le sait bien, Jean-Pierre, je ne permettrai jamais de le dire s'il ne le disait lui-même. Donc voilà.
Mais c'est pas lié à la pièce.
Pardon.
C'est pas lié à la pièce.
Non.
C'est pas lié au responsable général qui est le metteur en scène. Oui. Alors, à quoi c'est lié, si on peut...
C'est peut-être lié à ce pourquoi peut-être aussi on a fait Théâtre Ouvert. C'est lié au geste de la production d'un spectacle qu'on va répéter 2 mois avec des décors. Et suivant les périodes, l'esthétique de la mise en scène, il y a eu des périodes où le décor, les costumes étaient extrêmement importants. Parfois, on a pu dire que ça finissait par étouffer l'œuvre dans l'œuf. Il y a eu des périodes où on revenait au texte. Je crois qu'en ce moment, on revient un peu au texte et c'est tant mieux. Mais il y a eu des périodes où c'était plus du tout. C'était écriture scénique, c'était tout le théâtre du cri, c'était Living Theatre, c'était Grotowski. Enfin, il y a eu toutes sortes de choses. Et je pense que c'est au poids de la solennité de la création dans un grand théâtre avec les moyens que cela procure. C'était bien, notez bien. Mais c'était moins rigolo.
Oui, simplement, d'abord, le mot pédagogie, moi, je suis... Non, je suis pour. Il n'y a pas de problème. La pédagogie peut être... Vous savez, moi, j'ai souvent dit qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il y a de mauvais professeurs. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec la pédagogie, simplement. Hein. Mais non, mais je veux dire que, pour répondre à votre question, ou essayer, c'est que c'est une pièce... qui était ludique. C'est une pièce qui parlait il y avait un sous-titre, la lutte des rêves. C'était dans le contexte de la guerre 14-18. C'était dans le contexte de Jaurès, les pacifistes, mais de l'autre côté, les syndicalistes, les anarchos, etc. On ne va pas aller voir les Boches, et le dos disait, ce sont nos frères. Enfin, il y avait ce moment d'interrogation. Et Grimbert a pris une sorte de point de vue d'ironique, de recul sur l'histoire. Et donc, Vincent, quand il a fait cette mise en espace, il a, je vous assure, que pendant 4 jours, il a réconcilié, peut-être ça pourrait servir d'exemple, il a réconcilié toute la gauche française, et à commencer par les orthodoxes staliniens, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est allé assez loin. Et tout le monde riait, et de bon cœur, et en même temps, vous voyez, le voisin rire, et ils avaient un problème, mais ça marchait très bien. Bon, il y avait un regard sur l'histoire, sur l'échec de l'histoire, sur, finalement, ça se termine par l'assassinat de Jaurès, rue de Croissant. Bon, et ensuite, Vincent s'est dit, non, mais c'est quand même, depuis, on sait ce qui s'est passé. Si vous voulez, voilà la différence. C'est que dans la mise en espace, on n'est pas censé savoir ce qui va se passer après. Quand il fait la mise en scène, il dit on ne peut pas ignorer l'histoire, tout ce qui s'est passé. Donc il a pris un peu trop au sérieux et du coup, c'est devenu un peu tragique. Voilà. Mais vous savez, la mise en espace appelle une légèreté. Tout à l'heure, Micheline encore parlait du Conrador. Je vais vous donner un exemple parce que c'est pour vous aussi, monsieur, et peut-être pour les autres. dans la pièce de Rezvani. C'est quoi le Candidrador? C'est le Shah d'Iran qui avait beaucoup d'argent et qui voulait vraiment fêter l'Empire perse, je ne sais pas quoi, et qui avait beaucoup d'argent, il ne savait pas quoi en faire. Donc il a invité les chefs d'État, il a créé une grande fête pour... voilà. Et Rezvani, qui est d'origine iranienne, a voulu se venger. Il a inventé la cérémonie avant qu'elle ait lieu. C'est un pamphlet avant. Et donc, il a écrit ce texte et il ironisait. Et en fait, chaque chef d'État, monsieur, bon, ils avaient des noms un peu écorchés, mais enfin, c'était monsieur Pompidou, si vous voulez, et ils étaient annoncés comme c'est avec les trompettes d'Aïda, si vous voulez. On annonce, et puis, avancé, le chef d'État ou le chef, bon. Il a écrit ça comme ça. Évidemment, au pénitent blanc, et pour revenir au brouillage de piste dont on parlait, au pénitent blanc, dans une mise en espace, vous voyez, avec des trompettes d'Aïda en train d'annoncer l'arrivée, c'était proprement ridicule. Donc, Vincent, Jean-Pierre Vincent et Jean Jourdeuil, qui travaillaient ensemble, ont dit « pas question ». Mais quand ils ont commencé à travailler, ils se sont aperçus qu'il y avait un manque. C'est-à-dire que ces trompettes qu'avait conçues l'auteur dans son dialogue s'appuyait sur un dialogue et que donc il manquait quelque chose, et c'est à ce moment-là qu'un comédien magnifique qui s'appelle Maurice Benichoux, qui était parmi les jeunes comédiens, est allé à un magasin qui a changé de nom à la rue de la République là, et il a acheté un petit bateau en plastique des enfants pour 1000 francs anciens où on faisait et ça faisait, et alors ça faisait le soi-disant, et donc du coup, dans la mise en espace, quand on a annoncé l'arrivée de Pompidou, par exemple, il y avait le comédien qui faisait « bouh » et les gens riaient. Et donc, ça a apporté le clin d'œil, montré ce qu'il y avait de dérisoire. Voilà. Donc, la nécessité pour votre imaginaire. Vous voyez, il ne suffit pas de dire sans décor, mais il y a aussi des repères. Et là, ils ont inventé les repères. Et ces repères étaient liés à l'écriture. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, pédagogiquement parlant, camarade.
D'autres éléments.
Mais on a vraiment envie de vous entendre, vous savez, spectateurs, même si vous n'êtes pas venus au pénitent, nous sommes venus à vous et on a envie de vous entendre, d'entendre vos réactions, vos questions. On n'a pas envie de soliloquer. Voilà.
Madame.
Un petit truc aussi, mais ce n'est pas tellement à vous. Là, c'est plutôt la salle qui avait répondu pendant le débat. Tout le monde disait que Gospodine était égoïste. Et moi, je me disais, mais non, il n'est pas du tout égoïste. C'est un couillon, quoi. Il se fait couillonner par tout le monde. Et je me dis, toute une salle qui pense... et je me disais, peut-être que je suis complètement folle de ne pas penser ça. Je n'ai pas osé le dire. Alors, j'en profite pour vous demander, est-ce que...
Alors, d'une manière plus générale, parce que tout le monde n'a peut-être pas
oui,
vu ici...
Oui, c'est celui qui donne...
Quelle liberté on laisse aux spectateurs, et dans l'échange, est-ce qu'il y a cette possibilité-là, par exemple, est-ce que...
Tu veux répondre, vas-y, vas-y.
La liberté, elle est totale, mais Lucien a coutume de dire « on » est un pronom malhonnête, et de la même manière, toute la salle a pensé « qu'en savons-nous ? » Rien du tout. Vous avez pensé, je dirais que plutôt qu'égoïste, il est peut-être individualiste, dans le sens où bon, c'est un homme, vous n'avez pas vu la pièce, c'est un homme qui est mal dans sa peau, mal dans la société, qui n'arrive pas à s'insérer, qui, je ne me rappelle plus s'il est au chômage ou pas.
Non, il refuse d'être au chômage, voilà. Puisqu'il refuse le travail.
Voilà, donc il refuse le travail, il refuse tout ce que la société lui donne, lui offre. Sa femme, sa compagne le supplie, lui offre toutes sortes d'opportunités, il refuse tout. Ce qu'il veut, c'est... Il ne sait pas très bien ce qu'il veut, au fond. Et il arrive à trouver une solution qui est totalement individuelle. Et... Au lieu de trouver une solution sociale, c'est peut-être ça que vous voulez dire dans le sens où il est égoïste, il est individualiste, il trouve un monde par hasard, il est soupçonné par la police de je ne sais quoi, il est arrêté et mis en prison. Et là... Il est heureux pour la première fois de sa vie parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'argent. Et là, il travaille, mais il ne touche pas d'argent. Alors, il est très heureux parce que c'est ce dont il a toujours rêvé, c'est d'être débarrassé des problèmes d'argent, d'être débarrassé, en somme, si vous voulez, c'est peut-être un couillon, mais c'est un couillon heureux, on va dire.
Non, mais c'est ni un couillon, parce que ça peut être bien du côté de la Provence, de Martigues et du camarade Marcel Pagnol qui vous dira que c'est bien d'être couillon. Et c'est ni un couillon ni un égoïste, c'est quelqu'un qui refuse la société qu'on lui donne. Et c'est pas, on n'est pas couillon parce qu'on refuse la société, on est couillon si on n'est pas conscient qu'on est mal à l'aise. Et on, voilà. Mais lui, il dit, ça va pas, je me demande pourquoi la société est comme ça, et à partir de là, il n'a pas une attitude égoïste, il a une attitude individualiste. Disons que vous avez parlé de Jean Lachance, de Brecht. Bon, si vous voulez, dans la dramaturgie contemporaine, il y a eu un moment ce qu'on a appelé les enfants de Brecht, c'est-à-dire ceux qui sont venus après lui, qui ont voulu hériter de quelque chose de ce qu'il disait, et il y a aussi désormais les petits-enfants. Et quelqu'un comme Lolle appartient à cette génération, c'est-à-dire qu'il y a un héritage brechtien qu'on est en train de redécouvrir. Mais vous savez, Brecht, on lui a fait dire beaucoup de choses, et lui, il ne dit pas que il faut faire le message, machin, etc. Il a dit une chose énorme, mais importante. Il a dit que le théâtre doit d'abord divertir. Voilà. Et on a eu droit à un certain nombre de spectacles chiants qui se voulaient brechtiens et qui étaient faux. Et en fait, moi j'ai pensé à une autre phrase ce soir, c'est pas un hasard si vous parlez donc de Brecht, quand j'ai assisté à la première mise en espace de Gospodine, j'ai pensé à quelque chose. Vous savez, quand les tanks soviétiques sont entrés, ont commencé à tirer à Berlin-Est sur les ouvriers, à protester, etc., Brecht était en train de répéter Coriolan de Shakespeare. Et tout d'un coup, le bruit était tellement énorme que ça dérangeait tout ça. Alors Brecht demande au directeur du théâtre, qui était un vrai stalinien, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le stalinien directeur lui dit « Le peuple est en train de protester contre ses leaders. C'est pas normal. » Et Brecht lui a dit « Il faut changer de peuple. » Voilà, je crois que ça mérite réflexion. Et il y a quelque chose dans Gospodine qui nous rejoint aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire, il ne suffit pas de lever le poing pour faire la révolution, parce que personne n'a pu faire la révolution en levant le poing sur un plateau. Déjà, même dans la rue, c'est difficile. Mais il faut prendre conscience, et c'est ce que voulait Brecht, et c'est ce que voulait, je pense, Lolle, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert ici, en tant qu'auteur, c'est qu'il dit que le théâtre peut aider un spectateur à prendre conscience qu'il pourrait changer le monde. Mais c'est déjà beaucoup.
C'était un peu le propos de Villard, déjà, ça, non ?
Bien sûr. Villard a été brechtien sans le savoir. Enfin, il a quand même monté Mère Courage, et ça a remué beaucoup de gens, et surtout Arthur Rouy, qui était magnifique, parce que, comme vous savez, Villard, il choisissait ses pièces en fonction du combat politique général à mener dans la société au moment où il faisait les choses. Et donc, il y a un moment où on avait l'angoisse d'un fascisme rampant, et à ce moment-là, il a monté Arthur Rouy magnifiquement, comme à un moment, il y avait le problème de la guerre d'Algérie, pardon, des événements d'Algérie, on ne disait pas la guerre, et il a monté la paix. Donc, et puis à un moment, il a monté la guerre de Troie. Chaque fois, c'est sa réponse à un problème qui était préoccupant dans la société française du moment. Alors bien sûr, à un moment, il a été traité, quand il a bien démarré, un certain François Mauriac et d'autres l'ont traité de crypto-communiste. Et lui disait, moi, je suis un radical, mais pas au sens radical socialiste. Mais voilà. Mais bon, en tous les cas, il a fait, comme il a dit, il a fait pour 100 ans le théâtre de son temps. C'est pas mal déjà.
Oui, c'était par rapport à une question par rapport aux quatre différentes propositions qui existent dans le théâtre ouvert. Je raccroche l'histoire de On est heureux en vivant sans argent qui est présent dans Gospodine. Moi, j'ai vu Tout doit disparaître qui parle de la société de consommation. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a pas de coïncidence, mais est-ce qu'il y a quelques thèmes comme ça qui sont communs dans les quatre pièces, c'est-à-dire est-ce que théâtre ouvert, vous sentez quelque chose dans les quatre propositions qui sont communes ? Est-ce qu'il y a des préoccupations qui reviennent soit dans les écritures des auteurs ou dans la manière dont les metteurs en scène se l'approprient. Est-ce que vous en avez repéré quelques-unes comme ça ?
Je crois que la réponse est en partie dans ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est-à-dire que on a quatre metteurs en scène qui ont choisi en toute liberté une pièce qui leur paraissait représentative de ce qu'ils voulaient dire aujourd'hui en France. Bon. Donc, Jean-Pierre prend cette pièce Concrelac, à saluer Madame, et bien sûr, ça se passe dans une classe, mais c'est aussi sur fond de guerre. Il y a la guerre derrière, et il y a des gens de différentes communautés, vous savez qu'on est en train d'inventer des mots, et difficile à dire parfois, donc je préfère pas dire. Mais bref, il y a ça, il y a comment on devient adulte dans une société qui est là sur fond de guerre, sur fond de bataille, et qui ne permet pas forcément l'épanouissement. Voilà. Dans la deuxième pièce donc, que vous avez vue, donc c'est Gospodine, voilà, ce mec il dit c'est pas possible de rester comme ça, on ne peut pas rester comme ça. Bon. Dans celle que vous évoquez là, tout doit disparaître, c'est bien sûr dire comment la société de consommation vous broie quelque part. Bon, en fait, c'est parti d'un fait divers très simple, c'est que dans beaucoup de grands magasins, et en particulier à Londres, vous savez que la tradition des soldes, c'est exceptionnel. Et il est arrivé, les gens campaient la nuit pour être parmi les premiers à rentrer. Et il est arrivé quelquefois que quand les portes s'ouvraient, la violence était telle qu'il y a eu des morts. Et puis alors, on a enlevé les morts et puis on a continué à vendre. Voilà. Et par exemple, dans cette pièce, il y a un moment, le jeune homme, il évoque la bande d'Abadère. C'est pas innocent comme référence. Voilà. Et la pièce que vous allez entendre demain et après-demain est une pièce d'une jeune femme américaine, et c'est sur le rapport à la société américaine, certes, puisque la pièce se passe en 1932, c'est-à-dire dans la Grande Dépression de 1929, dont on nous parle beaucoup en ce moment. Il paraît que les banques sont très malheureuses, on ne leur donne pas assez d'argent. Et elles sont très ennuyées. Bon. Et donc, il y a la dépression. Donc, il y a ce qu'on craint aujourd'hui. Mais à l'intérieur, il y a les rêves des gens qui sont, par exemple, les Noirs, qui étaient les premières victimes de l'open prolétariat, et qui hésitent. Et par exemple, le personnage principal, entre guillemets, de la pièce, c'est trois personnages, il est noir. Et il a d'un côté la Bible, et de l'autre côté, le capital. Et il passe son temps à ruser. Et quand les Blancs veulent lui casser la gueule, il dit non, c'est pour rien comprendre. Je suis là, mais en réalité, moi, je chante à l'église tous les dimanches. Il est à l'église, il est le leader de l'église. Et en même temps, il a la cellule du Parti communiste. Voilà. Et en même temps, il y a le Blanc et le Noir, le racisme qui est là autour. Donc ce sont des problèmes de société qui sont posés, voilà, et que aujourd'hui, je crois qu'on ne pourrait pas, en ce moment, je ne veux pas du tout influencer personne, ni dire quoi que ce soit, mais on ne peut pas faire innocemment du théâtre aujourd'hui. Voilà. Madame ?
Oui, j'ai pas vu donc les pièces à la chapelle des pénitents blancs, mais puisque vous appeliez à parler, c'est agréable, ça change un peu le rapport, vous savez, entre l'estrade et le public. Je trouve ça très agréable par rapport à d'autres mises en espace et d'autres débats. Moi, j'ai vu hier soir Mai, Juin, Juillet, oui. Vous savez, et j'étais, je voulais vous dire, parce que vous disiez le théâtre doit aider à changer le monde, en fait, c'est ça sa fonction, une de ses fonctions essentielles, on va dire, pour faire simple et raccourci. Et j'étais affligée, quoi, de Mai, Juin, Juillet, affligée. Je vais vous dire pourquoi, parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'en 2011, on peut avoir comme projet poétique de répéter à l'ident exactement historiquement ce qui s'est passé en 1068, mais exactement, enfin, j'ai lu ça dans le livre d'histoire, enfin, c'était, mais pas. Comment est-ce que ça peut être un projet poétique et donc un projet politique sans qu'il y ait une once, enfin, je ne sais pas, je me suis dit, mais on est au 19e siècle. Je sais pas, un manque d'inventivité. Et c'est un sentiment global que j'ai à Avignon depuis quelques années, où il y a une espèce de coupure, je trouve, entre le réel
la richesse, les contradictions complètement dingues de cette société dans laquelle on vit, et ce rituel enfermant, de plus en plus enfermant, de ce festival qui ne parle plus qu'à une poignée de gens très âgés, dois-je dire, hein. Il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de... Je ne sais pas, donc quel sens changer le monde dans ce cadre-là?
En tout cas, c'est votre perception.
Évidemment que la mienne. Je ne parle que pour moi, monsieur.
Je vais poser une question naïve parce que j'ai été extrêmement occupée. Qu'est-ce que c'est que mai, juin, juillet?
Écoutez, c'est une pièce donc mise
en. C'est quoi? C'est qui?
Excusez-moi.
Pardon.
De Denis Guénoun, voilà.
Oui, non, mais simplement, oui, je ne retiens pas forcément les titres.
Oui, mais vous avez raison. Moi, c'est les noms. Moi, c'est les noms. Alors voilà, c'est Denis Guénoun.
Je ne l'ai pas vu, donc parlez de quelque
chose. Et c'est Schiaretti qui était responsable de la mise en espace.
Parlez de quelque chose.
France Culture.
C'était une lecture, oui, ce n'est pas une mise en espace.
Parlez de quelque chose qu'on n'a pas vu.
Oui, c'était mis en espace.
Mais pour en revenir un tout petit peu, si vous le permettez, à la question d'avant, si je retrouve ce que je voulais dire, car je l'ai complètement perdue. Mais oui, on nous demande souvent dans les interviews et tout ça, quelles sont les tendances de l'écriture, etc. C'est la question la plus difficile au monde. Moi, je réponds généralement que j'en sais rien. Tout ce que je peux dire quand même, parce que le jeune metteur en scène qui, demain, est responsable de la mise en espace, Baptiste Guiton, merci Lucien, dit une chose très juste à propos des heures sèches, qui, je crois, peut s'appliquer aux quatre pièces. C'est que tout ça, c'est quand même dit à travers une fable. C'est pas des idées mises sur le plateau. C'est pas. Il y a vraiment quand même. Je veux dire, dans le sens où ça peut toucher un public large et où ça l'a aidé lui dans le travail, c'est que il y a quand même une fable, des personnages, quelque chose qui se passe, une fable, une histoire. Et au-delà de ça, eh bien, c'est vrai que les quatre pièces, on peut le dire, comme beaucoup de pièces, heureusement maintenant. Touche un peu à la société dans laquelle... Il y a eu une période, il y a quelques années, où on avait l'impression que tout le théâtre qui s'écrivait, on avait envie de dire aux auteurs, mais allez voir un psy, allez sur le divan du psychanalyste, c'était moi, je. Et ça devenait vraiment le journal intime, exutoire psychanalytique. Il y a eu vraiment une période dans les manuscrits qu'on recevait où c'était franchement décourageant. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un regain de regard plus politique ou plus sociale ou plus sociétale, enfin les mots varient, on ne peut pas généraliser, mais il me semble qu'il y a une reprise de citoyenneté peut-être, enfin une meilleure insertion dans le réel, qui en tout cas nous fait plaisir, donc je voulais dire ça parce que c'est important. Mais j'ai peut-être coupé quelqu'un qui voulait dire quelque chose.
Non, madame, il y a mademoiselle qui, vous parliez de la jeunesse, donc il y a mademoiselle qui depuis un moment demande le micro. Mais vous savez que la jeunesse est devenue à la mode. J'ai lu quelque part qu'il paraît que la jeunesse, c'est l'avenir. Hein. Vous savez, je sais pas si, moi, je ne le savais pas, mais il paraît que c'est normal, comme disait quelqu'un qui parlait de la jeunesse, d'ailleurs. Mademoiselle, mais il aurait du sérieux de vous répondre. Oui.
Oui, donc c'est peut-être un peu naïf de ma part aussi. Vous avez parlé tout à l'heure vous avez lié Brecht et Villars. En parlant en rappelant la phrase de Brecht à propos du divertissement et du théâtre, et j'aimerais ça, enfin, c'est quelque chose qui me taraude un petit peu en tant qu'intéressé en politique et qu'intéressé en théâtre. Comment est-ce qu'on peut lier le divertissement et l'implication politique ou simplement l'implication dans l'actualité du théâtre?
Voilà, là vous posez une sacrée question. Mais d'abord, vous savez, le mot divertir. Est ambigu dans la langue française. Vous savez, il y a beaucoup de mots qui sont ambigus. Il y a d'abord le divertissement pascalien. Alors là, il faut le laisser de côté, c'est pas pour moi. Bon. Et puis il y a le divertissement du boulevard. C'est pas non plus bien. Bon, divertir, c'est-à-dire, c'est intéresser quelqu'un à penser à autre chose. D'accord ? Et donc, mais l'intéresser par le plaisir de partager quelque chose, voyez. Et ce que voulait dire Brecht, c'est que si vous allez essayer de faire passer... Pendant un moment, on a opposé... On fait un cours, là, c'est embêtant.
Non,
pendant un moment, on a opposé Piscator et Brecht. Et Piscator disait carrément, moi, je suis pour le théâtre qui divise. Et d'ailleurs... Un de nos camarades communs, M. Armand Gatti, était plus piscatorien que brechtien. Voilà. Et puis, Brecht, lui, il dit, moi, je veux faire, enfin, je simplifie, puisque vous êtes militante, mais bon, il dit, je fais de l'entrisme, en quelque sorte. Hein, vous savez, moi, il y a une époque, une génération, parce que vous parlez de mai 68, où on disait, comme disait Mao. Bon, mais on lui attribuait plein de choses qu'il n'a jamais dites. Hein. Donc, moi-même, j'ai fait comme tout le monde, et je disais, comme disait Mao, noyauté, il en restera toujours quelque chose. Voilà. Si ça peut vous éclairer, c'est important. C'est-à-dire que vous semez un grain de sable, vous savez, ou vous laissez une baignoire, là. Vous laissez un grain de blé, là, hein, un petit grain. Vous n'en occupez pas. Revenez l'année suivante, vous verrez sortir une feuille. Et c'est vrai. Voilà. Parce qu'il y avait un peu de sable dans la baignoire ou dans la bassine qui a donné une partie de la contribution avec l'eau et le soleil à la naissance de quelque chose. Mais si le grain meurt, il n'y a rien. Voilà. Donc, on peut divertir au théâtre, on peut dire des choses importantes, mais il faut retenir l'attention. Si vous voulez, par exemple, je vais vous raconter un très vieux souvenir. Il y avait une pièce de Brecht montée au Théâtre des Nations, qui n'existe plus aujourd'hui, par le Berliner Ensemble, en allemand. Et c'était La Mer. C'est une pièce didactique au possible. Bon. Et les gens, à l'époque, au Théâtre des Nations, on était en smoking, cravate, tout ça, impeccable, les gens. Hein, voilà. Tout l'orchestre était noir, avec un peu de blanc au milieu, voilà. Et à la fin, toute la salle se lève et applaudit. Fait un triomphe à Madame Helen Weigel et au Berliner ensemble, alors qu'ils venaient d'entendre un discours politique quand même d'une certaine violence. Il y a un monsieur, je me souviens, en smoking, mais alors plein de médailles, il a dû faire je ne sais pas combien de guerres, et il s'est levé et il a crié « à Moscou ». Moi, j'étais jeune spectateur en haut, d'accord, dans les là-bas, où il n'y avait pas besoin de smoking, et je me suis dit, si Brecht était dans la salle, il dirait « voilà, au moins celui-là a compris ce que je voulais dire ce soir ». Et c'est ça que je veux dire, et c'est très important. Voilà. Donc, éviter l'ambiguïté, parler clairement, et puis chacun trouve son chemin. Ça vous va ? Excusez-moi, voilà. Je vous en prie. Oui, bah, par rapport à ce que vous disiez, madame, moi, je suis avec toute l'équipe de Théâtre Ouvert, donc avec Michine. Nous sommes ici les invités du Festival d'Avignon. Et nous avons, de toute façon, le bonheur qu'on nous ait fait ce cadeau. Et on est content d'être venu pour fêter les 40 ans. Donc, vous comprenez bien que je ne vais pas rentrer dans un grand débat sur ce qui se passe ou ce qui se passait. Ce que je peux vous dire, c'est que les choses sont en train peut-être de bouger dans le bon sens. Parce qu'il y a un moment où on nous a dit « Ah, maintenant, la parole, il n'y en a plus besoin. » Ou alors, il faut venir sur un plateau et se mettre les seins nus pour une femme, par exemple, et venir avec un serpent qui est au-dessus de la poitrine. Va-t-il, oui ou non je ne sais pas ce qu'il va lui faire, mais c'est en tous les cas, c'est des choses qui ne me plaisent pas beaucoup. Et il y a eu des choses comme ça. Et à telle enseigne qu'il y a quelques semaines, je me suis trouvé dans un débat. J'aime pas beaucoup, j'aime de moins en moins. Et je me suis trouvé, il paraît que le théâtre est hybride. Et donc, il y a un monsieur qui essaie d'inventer un mot de l'hybridité, enfin, je ne sais pas quoi. Il avait parce qu'avec toutes les choses, les arvions, vous savez, il avait une telle difficulté à inventer un mot nouveau. Qu'à un moment, le débatteur ne s'en sortait pas. Il m'a dit « Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?» Et moi, j'avoue que ça m'a agacé. Et à ce moment-là, j'aime bien parfois citer des choses, que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je lui ai dit, mais je vous dis ça pour que vous soyez optimiste. Hein. Je lui ai dit que dans le Talmud, il est dit que les fruits, les produits qui sont hybrides ne sont pas cachères. Sauf s'ils peuvent se reproduire. Alors, ça a arrêté le débat et j'étais content parce que monsieur a réfléchi à ce que je lui ai dit. Voilà.
Sinon, oui. J'ai envie de demander en 71.
Ah.
Vous, ça a été en réaction à quelque chose. Quel était le contexte ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'était le contexte du théâtre ici à Avignon en 71 ? Quand vous avez proposé cette chose qui était une chose nouvelle, quand même.
Bon, comme toujours, les choses... Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de hasard, hein, d'abord. Hein. Il n'y a pas de hasard. Les événements précèdent ou suivent ce qu'on appelle le hasard. Voilà. Mais en 71, 70, puisque Théâtre Ouvert dans ma tête avec Villard est né en 70, si vous voulez, c'est nous étions bêtement dans la foulée des années 68.
D'où vous veniez, vous, d'abord ?
Moi, je viens de la Goulette, à 50 mètres de Tunisie. Je suis à 50 mètres de la mer de Méditerranée en Tunisie. Et c'est de là que je viens. Mais je viens, je ne vais pas raconter ma vie. Non, je veux dire.
Mais vous étiez journaliste, vous étiez
j'ai
quoi ?
J'ai toujours été dans le milieu, théâtre, j'ai tout fait. Et j'étais un critique dans la revue Europe. J'ai toujours travaillé dans les petits médias pour être un homme libre. C'est-à-dire que je n'ai jamais été. On ne m'a jamais dicté ce qu'il fallait faire. Et chaque fois que quelqu'un s'est abusé à me changer quelque chose, j'ai remis aussitôt ma démission, par exemple. Allez, je le dénonce. Jean-François Kahn, il m'avait fait un article dans les Nouvelles littéraires. Il fallait dire que Robert Hossein et Georges Lavaudan, c'était le même combat. Pareil, c'est quand même difficile. Voilà. Donc, mon article a été trituré, j'ai remis ma démission. Bon, je vais être libre. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et puis, à un moment, j'ai trouvé que la critique peut tourner en rond. Et ça ne servait plus à grand-chose. Et pour moi, je voulais faire de l'action. Voilà. Et en même temps, par exemple, à Avignon, je me rappelle, on était avec Micheline, on a vu un texte d'un jeune auteur qui était, pour nous, très intéressant. Le spectacle a été nul. Les gens ont sifflé, il y avait une très belle distribution. Et je me souviens d'avoir écrit dans la Quinzaine littéraire, où j'écrivais aussi, c'est-à-dire que cet auteur était un auteur à suivre et c'est le spectacle qui n'était pas bon. Bon, quand l'article est sorti, j'ai eu un coup de téléphone qui m'a beaucoup touché, c'est de Jean Bidard, qui m'a remercié parce que toute la presse lui est tombée dessus, qu'il ne fallait pas programmer cet auteur. Et cet auteur, c'était Édouard Bond, qui a été monté ici, à la Cour d'honneur, et qui a été massacré. Voilà. Donc, il y avait ça. Et du coup, si vous voulez, bon, avec mes 68, comme Michine évoquait, le living, il n'y a pas besoin d'auteur, tout le monde est créateur, monter sur le plateau, on va travailler ensemble. Mais c'était minuté à la liberté, puisqu'il y avait les régisseurs qui faisaient sortir les gens quand ils restaient trop longtemps sur le plateau. Il y avait donc Grotowski qui lui avait une autre rigueur qui faisait que si vous riez dans un spectacle où il ne fallait pas rire, je peux vous dire que vous faisiez engueuler. Et des élèves comédiens se sont fait exclure de son séminaire parce qu'ils ont ri trop tôt. Trop tôt. Voilà. Et du coup, j'ai découragé le comédien qui ne pouvait pas aller plus loin. Bon. Et donc, il y avait tout ça. Et l'auteur était exclu de la création. Donc, c'est là, si vous voulez, où moi et Micheline, d'ailleurs, nous recevions chez nous, vous savez, souvent comme ça, l'histoire du théâtre ouvert est née dans notre appartement. C'est-à-dire que les auteurs venaient chez nous, nous donnaient des textes à lire, on lisait, on les rencontrait. Et puis Micheline nettoyait les cendriers ensuite, jusqu'au jour où on a pris des bureaux. Mais c'était ça. Et les auteurs étaient un peu à la traîne. Combien d'auteurs auraient pu donner autre chose ? Mais parce qu'un auteur n'existe pas. Un auteur n'existe pas s'il n'a pas été joué. Vous savez, le plus bel exemple, et par rapport à la mise en espace, et pour répondre, c'est que une idée, dans la mise en espace, on a dit, le metteur en scène n'a qu'un seul problème, la création. On était devenus ses administrateurs, c'est nous qui engageons tout ça. Bon, tout le monde était payé, ce qui n'était pas à l'époque est vrai. Tout le monde était payé, pareil, charges sociales, tout ça. Bon, mais ça compte, c'était le droit de la liberté, c'est aussi la liberté financière, le budget. Donc, on faisait tous les projets artistiques, on les budgétait, ça coûtait tant, on ajoutait 10% et on était tous solidaires. Ou on trouvait l'argent pour tout, ou on ne le faisait pas. Rien. Et théâtre ouvert a failli ne pas avoir lieu. Bon. Et puis, un jour, en 72, un metteur en scène téléphone. Je passerai par la machine. Il téléphone, il dit, je vais faire théâtre ouvert. Il dit, c'est trop tard parce que le projet a été arrêté et le budget, bon. Et ben, il dit, oh, alors elle lui dit, mais au fait, de quelle pièce s'agit-il ? Alors, il lui dit, oh, d'un certain Vinavert. Micheline dit quoi, Vinavert ? Mais il faut le savoir, voilà, pour revenir à tout ce que vous dites, d'où on vient. Micheline était jeune étudiante, elle allait au théâtre. Elle allait voir des choses, pas avec moi, je n'étais pas avec elle. Hein, bon. Et puis, un jour, elle va au théâtre d'aujourd'hui et elle voit les Coréens.
Vas-y.
Voilà, j'ai dit, je me suis arrêté. Vas-y. Et vous, non, c'est simplement, il faut savoir que Vinavert était l'auteur qui est né en 56, si j'ose dire, et qui est resté dans le trou 16 ans. Vas-y. Non, c'est important. Vas-y.
Je voulais vous demander d'où vous veniez aussi.
Voilà. Moi, je venais de nulle part de précis. Je suis née à Paris, si ça peut intéresser quelqu'un. de juifs d'Europe centrale. Voilà. La migration Est-Ouest, Pologne, Allemagne, France. Mon père est parti en 1933. Voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours lu et vu du théâtre. C'est-à-dire que je n'ai jamais ressenti cette difficulté qu'il peut y avoir, paraît-il, à lire des textes de théâtre. Donc c'est vrai que j'en lisais. Et pour revenir à cette petite anecdote de Lucien, c'est vrai qu'en 1956, j'avais vu un tract à Paris, rive gauche, Théâtre d'aujourd'hui. Alors j'ai dit Théâtre d'aujourd'hui, moi j'allais beaucoup au théâtre, mais j'allais voir les Renaud Barrault, le Théâtre Héberto, j'allais voir Gide, Monterland, Cocteau, c'était bien, j'aimais beaucoup, j'avais mes comédiens favoris. Mais Théâtre d'aujourd'hui, j'y suis allée. C'était à l'Alliance française et je vois un truc extraordinaire pour moi. C'était une mise en scène de Jean-Marie Serrault, aujourd'hui totalement inconnu, mais grand metteur en scène s'il en fut, et grand découvreur de texte. Et c'était la première pièce de Michel Vinaver, Les Coréens. Et là, je me suis dit, ah ben, le théâtre, c'est pas juste un truc dans les salons, avec des bourgeois qui reçoivent des amis, etc. Ça peut parler du politique, ça peut parler de notre aujourd'hui. C'est comme le cinéma, car j'étais aussi cinéphile, et le cinéma me paraissait plus proche de la réalité d'aujourd'hui que le théâtre, et ça a changé complètement ma perception. Il y a eu un deuxième spectacle, comme ça, c'était Roger Planchon, pas mal non plus, avec Paolo Paoli d'Arthur Adamoff. Alors ça m'a définitivement... voilà, si bien qu'en effet, en 72, quand Jean-Pierre Douniac, pour ne pas le nommer, m'a dit, oh, c'est Michel Vinaver. J'ai dit, quoi, Michel Vinaver? Ben, écoutez, oui, c'est vrai que la production est complète, mais envoyez quand même la pièce, ça m'intéresse, je connais l'écriture de Vinaver. Et quand on l'a lu, c'était la demande d'emploi. Michel Vinaver était resté 16 ans sans être joué entre les Coréens et 72. Personne ne l'avait monté, personne. Et cette demande d'emploi, c'était un bijou. Et donc, on s'est débrouillé, je ne me rappelle plus comment, pour trouver l'argent. Bref, on a fait cette mise en espace. Et la chose intéressante, et je vais me tourner vers le monsieur du début, c'est que Jean-Pierre Douniac avait fait un théâtre musical à Avignon, avant la mise en espace, au Célestin. Un théâtre musical où il s'était complètement ramassé. D'ailleurs, ce n'était pas bien. Et il vient au Pénitent Blanc avec la demande d'emploi de Michel Vinaver, un triomphe, des débats de 2 heures. C'était pas drôle du tout, hein. Pas du tout, c'est pas toujours drôle. Et les gens lui disent, le public lui dit, mais comment ça se fait, monsieur Douniac, il y a 8 jours, là, au Célestin, vous avez fait un bide, c'était pas prêt, c'était pas bien. Et là, c'est formidable, ça. Et il a dit, ben, c'est très simple. Parce qu'au Célestin, je devais m'occuper de tout, la production, l'engagement des comédiens, enfin tout, absolument tout, je galérais. Et à Théâtre Ouvert, Léa Toun m'ont dit, tu t'occupes de rien. Tu choisis ta pièce, tu engages tes comédiens, on s'occupe de tout. Tu te consacres exclusivement à la création. Et pour en revenir à la question posée au départ, en réalité, je crois qu'il y a plusieurs facteurs déclenchants. Et c'est un peu long, et on va bientôt arrêter, je pense. Mais il y a eu un facteur déclenchant en 70, c'est qu'un jeune metteur en scène avait présenté au Carme un spectacle. Il s'appelait Michel Berthaud, ça s'appelait 2 ou 3 Don Juan. Et il s'était fait ramasser, il s'était fait siffler. C'était une pièce intéressante, on avait trouvé, d'un auteur allemand. Et il s'était vraiment fait siffler, ça n'était pas bien passé du tout. Et quelques jours après, sa femme nous a téléphoné en disant « Michel fait une dépression nerveuse, il veut voir personne, mais il veut vous voir, mais il veut voir personne, alors il faut aller à l'autre bout d'Avignon dans un petit café. » Donc on y est allé, donc on connaissait quand même pas mal de jeunes animateurs et auteurs. Et Berthaud nous a dit « Bon, ben, l'accueil du public, ça m'a tué. » Et puis alors, mon administrateur qui me dit le lendemain de la première « On ne va pas s'en sortir, j'ai oublié de payer, de compter les charges sociales et on ne s'en sortira pas. Tu vas être failli avec une dette de je ne sais plus combien. » On s'est dit, ça ne va pas, quoi, ces méthodes de création. Et la femme de Michel Berthaud, c'était d'ailleurs Juliette Berthaud, pour la petite histoire, la grande comédienne que vous connaissez par le cinéma. Et on s'est dit, non, c'est pas possible. Des conditions où un jeune metteur en scène se trouve dans une telle galère qu'il va peut-être jamais s'en remettre. Et les conditions de production, et c'est sans doute ça aussi, avec, combiné avec d'autres facteurs, qui a fait que Villard et Lucien se rencontrant, je dis Villard et Lucien parce que moi j'avais une telle vénération pour Villard, en particulier comme comédien, évidemment j'avais vu tous les spectacles, et je l'avais même vu dans la cour d'honneur en je ne sais plus quelle année, 57 je crois, dans un Pirandello. Je suis tellement émue, rien que de parler de Villard acteur, que je ne me rappelle même plus du titre du spectacle. Henri IV. De Pirandello. J'ai été interviewée récemment là-dessus. Et pour moi, Villard, c'était un tel monument que je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. J'étais à côté de Lucien, je n'ouvrais jamais la bouche, tellement il m'intimidait. Toujours est-il que Villard est sorti. Il aimait beaucoup Lucien parce que Lucien faisait de très belles interviews avec lui. Il lui a dit, vous partez. Lucien lui a dit, oui, j'en ai marre de ce festival, j'en ai assez, je m'en vais, je rentre chez moi. Vous ne faites rien pour le jeune théâtre. Alors Villard lui a dit, j'ai tout essayé. Ben, si vous avez une idée, hein, allez-y. Et en septembre, Lucien a eu une idée qui m'a épouvantée parce qu'on avait une vie assez normale. Il était jeune journaliste en train de monter, de construire sa carrière. Moi, je travaillais dans les services culturels. Enfin, tout allait bien. Et rentrer dans le milieu du théâtre, ça m'épouvantait. Changer complètement et se mettre à faire, à créer une association, à demander de l'argent au pouvoir public, enfin, à faire tout ce que... Tout ça, voilà, j'avais très peur. Enfin, nous l'avons fait. Voilà, donc il est allé voir Villard, rue de l'Estrapade, et Villard a dit, bon ben d'accord, quoi. Il y a cru, il n'a pas été emmerdant, il n'a pas posé 3000 questions, il en a posé 2, je te repasse la parole, Lucien, tu y étais. 2
questions. Oui, il m'a dit, voilà, je suis d'accord, alors vous êtes content, et il vous dit, mais il y a deux gros problèmes. Alors vous dites, ça y est, ça ne va pas marcher, bon. Alors il dit, qu'est-ce que vous préférez comme lieu ? Je lui dis, moi, du moment qu'il y a un toit, ça m'est égal. Il faut savoir qu'à l'époque, Avignon, c'était lié quand même au ciel et tout ça. Et moi, je trouvais que faire un travail de recherche, de quête, être soumis aux intempéries, n'était pas une bonne chose. Et il m'a dit, vous avez raison. Et Paul Piot, qui était son administrateur à côté, a tiré sur sa pipe. Et il a dit, j'ai repéré une vieille chapelle désaffectée. Je lui ai dit, du moment qu'il y a un toit. Et après, je vous garantis qu'on était 4, c'est-à-dire Michine et moi, Ricardo Marquez, qui était notre régisseur, et Pomme Meff, qui était notre administratrice. On a vraiment arraché des saloperies et on a même trouvé des ossements, paraît-il, de religieuses qui ont été enterrées 2 siècles avant. Bon. Et c'est devenu ce que vous savez. D'ailleurs, on devrait nous donner quand même une médaille parce que les cafés, maintenant qu'ils fleurissent à place de la principale, on y est pour quelque chose. Mais on nous fait payer les consommations, même pas de réduction. Bon. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est, il m'a dit, alors, l'horaire, vous préférez 18 heures ou 24 heures ? Et je lui ai dit, ni l'un ni l'autre. Et chaque fois, il répondait, vous avez raison. Et je lui ai dit, il fallait que les spectateurs d'Avignon choisissent entre ce lieu et la cour d'honneur. Sinon, c'est d'emblée marginaliser l'opération. Et il a dit oui. Et après, je lui ai dit, vous savez, il y a un gros problème quand même, c'est comment on fait pour choisir les metteurs en scène. Et qu'on ne peut pas être plusieurs. Il m'a dit, vous avez raison. Et après, j'ai pris un grand bol d'air et je lui ai dit, cette personne ne peut être que moi. Et il m'a dit, oui. Voilà. C'était ça, Villard. C'est de dire, je vais dire à tout le monde, j'ai compris, j'ai donné carte blanche à tout, s'il se ramasse, ben, tant pis pour lui. Et si ça marche, ça régit sur le festival. Et c'est vrai que le soir même, il y a eu le SAMU tellement il faisait chaud, parce qu'on a annoncé des orages. Et comme il y avait, on avait dit que c'était théâtre ouvert, il y a des gens qui ont pensé qu'ils allaient se faire arroser. Et donc le lendemain, il y a un monsieur très habillé, trois pièces, tout ça, qui arrive, très digne. Il me dit, c'était comme ça hier. Ben, j'ai dit, écoutez, hier c'était comme ça, mais sous prétexte qu'on a annoncé des orages, théâtre ouvert. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je lui ai dit, il y a 50 cons qui ont payé leur place et qui ne sont pas venus. Alors il m'a regardé, il m'a dit, j'étais de ces cons-là. Et c'était Pierre Dux.
Et puis Villard est mort, et puis Paul Puot a repris les choses. Et je crois quand même qu'il faut un hommage à Paul Puot de ce point de vue-là, peut-être.
Oui, il a joué le jeu, c'est-à-dire qu'en 71, nous avons tous décidé que tout serait exactement fidèle à ce que Villard avait souhaité. Et puis, on est resté 8 ans, jusqu'en 78, et puis les choses bougeant, ou bougeant pas bien, j'en sais rien. Paul Puot nous a exclus du festival en 78, et nous sommes revenus ici grâce à Alain Krombeck, qui était un monsieur formidable, et qui a dit, moi, mes plus beaux souvenirs, c'était Catherine au Pénitent Blanc par Antoine Vitesse, etc. Et on est revenu ici avec Alain Françon, notamment, et des choses formidables. On a eu beaucoup de lieux différents. Vous savez, on parle des Pénitents Blancs, mais les Cordeliers, il y a eu le fameux Gueuloir, il y a eu les cellules de création avec Armand Gatti et Mesguiche. Il y a, par exemple, vous allez à l'Hospice Saint-Louis. Mais à l'Hospice Saint-Louis, avant, c'était une friche. Et c'est nous qui avons défriché cette friche, si j'ose dire, en faisant une opération qui s'appelait Oser aimer, avec des jeunes auteurs plus ou moins connus. Et il y avait notamment aussi Bernard-Marie Coltès, qui est venu avec un texte magnifique qui s'appelait Tabataba. Et comme c'était complet, il était off, pour être d'accord, Bernard-Marie Coltès, off à 17h. Voilà, pour raconter ça, mais vous n'avez qu'à... Vous avez un petit livre où il y a des premières fois qui est distribué, comme des gens comme Lagarde, qui est aujourd'hui l'auteur le plus joué parmi les contemporains dans le monde, et que vous pouvez voir ici, ébauche d'un portrait, je crois que c'est jusqu'au 23 à 17h, avec un Laurent Pointreau magnifique, sont des auteurs qui sont passés par Théâtre Ouvert et qui, fort heureusement pour eux, ont quitté Théâtre Ouvert pour se retrouver dans des univers, dans des endroits, mais il y a une fidélité, une amitié. C'est ça aussi l'histoire de Théâtre Ouvert.
Est-ce qu'on va bientôt arrêter là maintenant, parce que ça fait 1h15 qu'on est ensemble quasiment, presque 1h10. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous voulez rajouter? Parce qu'on pourrait aussi, on peut continuer longtemps, pourrait dire quelle est la situation aujourd'hui, en dehors d'Avignon même, quelle est la situation de Théâtre Ouvert à Paris, comment ça se passe maintenant, parce qu'on a vu le passé, maintenant le présent.
On a été donc... On est né à Avignon, on était une fois par an en juillet ici. C'était donc sous le ministère de Jacques Duhamel. Je parle de la culture, bien sûr. En 76, il y a eu un nouveau ministre qui s'appelait Michel Guy et qui a dit que Théâtre Ouvert ne peut pas continuer à faire qu'une fois par an, il faut qu'il devienne permanent. Donc c'est lui qui nous a fait donner cette permanence, mais en disant que les Atouns doivent rester des nomades, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est mal porté. Hein. Et en 80, Jean-Philippe Lecas et un de ses collaborateurs, Jean-Pierre Grémy, ont dit que Théâtre Ouvert doit s'installer à Paris, trouver un lieu. Et c'est à ce moment-là que Micheline a eu très peur, parce qu'elle avait peur qu'on ait un théâtre. Et on n'a pas pris un théâtre, on a pris les Jardins d'hiver du Moulin Rouge, où le bail disait qu'on pouvait faire présenter des animaux savants sur patins à roulettes, ou bien avoir des salons bleus, compte tenu du quartier, vous voyez à quoi ça servait. Et sous cette coupole, ce lieu, il y avait au-dessus la terrasse, qu'on appelle la terrasse des trois satrapes, c'est-à-dire Jacques Prévert, Boris Vian, tous les deux habitants là-haut, et le troisième satrape, c'était le chien de Prévert. Et donc, à l'ombre du Moulin Rouge, nous avons construit un théâtre au Jardin d'hiver, qui est un théâtre quand même assez mobile et qui permet de continuer. C'est-à-dire que notre propos, c'est de laisser à la création. Le rêve, c'est d'arriver à la création, mais on n'est pas obligé d'y aller directement, et parfois faire des essais, ça permet d'aller. Aujourd'hui, il y a eu un très grand succès à Paris, au Théâtre du Rond-Point, le texte de François Bégodeau, Le Problème. Mais François Bégodeau est né au théâtre, à Théâtre Ouvert, avant la réussite du film, c'est Bord les murs. C'est un metteur en scène, François Bastiot, qui l'a fait travailler dans ce qu'on appelle l'école pratique des auteurs de théâtre, où il a travaillé, il a touché du doigt ce que c'est que la réalité théâtrale. Il a donné un texte, on l'a fait travailler, on en a fait un tapuscrit, et Arnaud Meunier le lit, et il dit, je veux monter la pièce. Et Micheline, ici, l'année dernière, rencontre Emmanuel Levos, et lui dit, vous savez, il y a une pièce pour vous, vous devriez la lire. Elle lui a envoyé la moi, elle la lit, elle dit, je veux la jouer. On le dit à Arnaud Meunier, et elle s'est retrouvée dans la distribution. Donc aujourd'hui, en 88, on est devenu Centre Dramatique National, de création. Et puis, depuis 2011, il paraît que nous avons une promotion et on devient Centre national des dramaturgies contemporaines. Vous dire ce que je ferai dans 3 ans, je suis incapable de vous le dire. Moi, je vis au jour le jour. Aujourd'hui, je suis là. Et puis, en septembre, je vous accueille au Jardin d'hiver. Après, je ne sais pas. Septembre, c'est important parce que je suis né le 8 septembre.
Lucien, je pense qu'il faut arrêter là et laisser partir les spectateurs qui veulent partir. Juste pour dire à madame qui a tellement aimé Cancrela, j'annonce que Jean-Pierre Vincent va monter la pièce. Il en est fou, il va la monter en janvier à Théâtre Ouvert Paris. Pardon pour ceux qui ne sont pas parisiens. Mais ils sont les bienvenus s'ils veulent venir, s'ils n'habitent pas trop loin. Donc en janvier, création de cette pièce que vous avez beaucoup aimée et moi aussi.
Et qui tournera certainement.
Certainement.
Oui. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup à vous tous.